quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
La beauté de la mort, c'est la présence, présence inexprimable des âmes aimées souriantes à nos yeux en larmes. L'être pleuré est disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage. Nous nous sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. C'est ce qu'écrivait Victor Hugo, lui qui perdit sa fille, Léopoldine, en 1843. Alors, c'est vrai, que reste-t-il après ? Le deuil ? Faire son deuil, dit-on, ça s'apprend, disent les uns, on ne s'en remet jamais, répondent les autres. La mort de son enfant est peut-être la pire des tragédies absurdes de l'existence humaine que même la foi et la philosophie ne comprendront jamais. Alors comprendre et surtout espérer quand son enfant s'est carrément donné la mort, comment continuer à espérer après le suicide de son enfant ? C'est la question que nous allons poser à mes deux invités et que nous allons surtout tenter de méditer pendant ces 52 minutes dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la grande joie de recevoir Anne-Dauphine Julien. Bonjour Anne-Dauphine.
Bonjour.
On s'était vu lors de votre précédent ouvrage qui était consacré à la consolation, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas ? Eh bien, on va encore essayer finalement de se consoler dans cette émission en quête de sens avec ce dernier ouvrage, Ajouter de la vie au jour. Peut-on ajouter de la vie au jour lorsque l'on perd son enfant qui, en plus, s'est donné la mort après que deux autres enfants soient carrément décédés après une maladie incurable ? Anne-Dauphine Julien, on se demande effectivement si l'ouvrage que j'ai pu, heureusement, avoir la joie de lire et que vous avez pu écrire vous-même, on se demande si c'est à la fois soit une thérapie vitale pour vous, soit un cri au monde, un cri à Dieu, une leçon d'espérance. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois ? C'est rien de tout ça ? C'est quoi ce livre pour vous ?
Je crois que c'est pas tout à fait ça.
C'est quoi ?
Non, alors c'est pas une thérapie, parce que si c'était une thérapie, ça serait illisible, je crois. La thérapie, je l'ai faite avant d'écrire le livre. Enfin, j'ai avancé déjà avant d'écrire le livre. C'est pas un cri. Il y a pas de cri, si ce n'est celui de ma souffrance, mais qui ne s'adresse à personne, qui est juste une façon d'exprimer ce que je vis. C'est l'espérance, c'est à chacun de le trouver. Je crois que c'est surtout une envie de partager. Une envie de partager un chemin de vie, une expérience, non pas pour raconter nécessairement, non pas pour parler ni de lui ni de nous, mais pour parce que je crois qu'on est tous liés, en fait. Je crois que tous les êtres humains sont liés. Alors, connecté, c'est un mot qui aujourd'hui est un peu galvaudé. Ouais, très tendance, mais en fait, on est connecté. Quand on est connecté, on n'est pas vraiment lié. Et que ce qui se passe dans la vie des autres nous concerne. Alors, ils ne nous regardent pas de façon voyeuriste, hein, c'est pas ça, mais qu'en fait nous vivons chacun un petit bout d'humanité, un petit bout de vie, et que ce que vivent les autres peuvent nous aider à vivre notre vie. Pas nécessairement quand on est confronté à des épreuves similaires, ouais, mais juste parce que c'est une connaissance de la vie avec un grand V.
Peut-être que c'est ça, vivre, c'est apprendre à connaître, peut-être. C'est une question.
Je pense que vivre, c'est avancer sur un chemin en se nourrissant de tout ce qui est. De tout ce qui est proposé sur ce chemin.
Alors, nous sommes en ligne avec Pascal Chapeau-Morelli, docteur en psychologie. Bonjour Pascal.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous entendre. C'est vrai qu'on vous regrette, évidemment. Hein. On aime bien les inviter en chair et en os dans cette émission en quête de sens. Alors, vous avez consacré votre dernier ouvrage au chemin du deuil, comment survivre et vivre, chez Guy Trédaniel. Pascal Chapeau-Morelli, je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ce livre, si vous l'avez déjà parcouru ou lu, le livre, le dernier ouvrage d'Anne-Dauphine Julien, Ajouter de la vie au jour. C'est vrai que moi, je trouve ça presque... Je n'ai pas vécu ça, évidemment, Anne-Dauphine, mais c'est presque culotté comme titre de prime abord, je trouve. On se dit, mais comment peut-elle, en fait ? Comment juste peut-elle ? Pascal Chapeau-Morelli, c'est un tour de force, c'est de l'héroïsme, c'est de la sainteté. C'est quoi, exactement, de pouvoir écrire ça ?
En tout cas, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu, disons, une brève présentation, et il y avait deux, trois phrases extraites du livre qui disaient « Il n'y a rien à écrire et pourtant j'écris ». parce que je suis en vie, pour ceux qui sont en vie, j'écris le lien, j'écris ce qui nous maintient, j'écris la vie. Je trouve que ça résume très bien ces paroles de Anne Dauphine. Ce qui se passe lorsqu'une personne est confrontée à cette expérience. Tout d'abord, il faut savoir que le deuil d'un enfant est pratiquement impossible. C'est-à-dire que lorsqu'on perd un parent, on sait inconsciemment, plus ou moins consciemment, on se dit qu'on va devoir faire un chemin de deuil. Mais devant la perte d'un enfant, on ne pense pas ça, absolument pas. Le deuil est d'abord impossible. On dit l'enfant est éternel, hein, mais le parent aussi est éternel. C'est-à-dire l'enfant reste toujours, toujours présent, mais le parent aussi reste le parent de cet enfant qui n'est plus là, vous voyez. Les deux sont éternels dans leur rôle, dans leur position, dans le lien qui a été créé. Ce qui semble l'urgence, en tout cas la première chose qui sera nécessaire, c'est d'accepter d'être en vie déjà, d'être en vie soi-même, de survivre à l'enfant. C'est le premier écueil, je pense, auquel va se confronter ce parent.
Alors c'est une chose que vous connaissez déjà, Anne Dauphine. C'est le pire, c'est que c'est ce que vous avez déjà vécu d'une certaine façon, même tout court, avec ces deux décès qui ont précédé celui de Gaspard. Faire le deuil, c'est cette expression, vous évoque quoi exactement en fait? Est-ce que c'est une expression si heureuse que ça finalement?
Je ne sais pas ce que deuil, ça veut dire. Dire quoi? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire faire le deuil.
D'ailleurs, c'est faire. On vit.
Voilà, c'est ça. Moi, je sais pas si je fais mon deuil ou pas, j'en sais rien. Je crois que j'ai pas le temps d'interroger ça, en fait. Je trouve ça très juste ce que vous avez dit, Pascal.
C'est Pascal, chapeau Morelli.
Je trouve ça très juste. C'est que...
Oui, rapprochez-vous de votre micro.
Voilà. Ce que je trouve très juste, c'est que d'abord, avant de savoir si on va faire son deuil, le réussir, le rater, ou je ne sais pas quelle autre expression galvaudée, voilà. La première chose qu'on se demande, c'est comment on va vivre.
Déjà.
Avant même de se demander quoi que ce soit, on s'étonne d'être encore vivant. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la mort de Gaspard, qui a été évidemment la plus grande souffrance que j'ai jamais connue dans la vie. Alors moi, j'aime pas parler de souffrances pires les unes que les autres. J'aime pas les comparer, les souffrances.
D'accord.
Chacun vit sa propre souffrance. Évidemment qu'on peut, si on projette la mort d'un enfant, ça peut être ce qu'il y a de pire. Je crois que chaque souffrance se vale. Et chaque souffrance est légitime. Mais en tout cas, la pire de celle que j'ai vécue, moi, c'est la mort de Gaspard. Et j'ai été étonnée en apprenant la mort de Gaspard d'être encore en vie. C'était assez particulier parce qu'il y a
physiologiquement, vous voulez dire le cœur
absolument ne pas avoir le cœur qui s'arrêtait de battre. Il y a eu une sidération, je pense que les médecins l'expliqueraient très bien, ou les psychiatres, une sidération qui a absorbé tous les bruits, tout ce qui se passait dans cette pièce où on nous annonçait la mort de Gaspard. Il y a eu une espèce de silence envahissant, et au cœur de ce silence, je n'ai entendu qu'une chose, c'est mon cœur qui battait. Et là, si on se tait toutes les deux, aucune de nous ne va entendre son cœur qui bat.
Ouais.
Alors évidemment, on peut l'expliquer, hein, physiquement, le cœur qui bat si fort, qui cogne, le sang qui afflue, ouais. Mais c'est déjà une survie. C'est déjà un instinct de survie. Ce qui se passe physiquement, on se sent en danger, et le corps, il y a cet instinct de survie qui s'exprime. Et en entendant battre mon cœur aussi fort, c'est pas qu'il battait, c'est qu'il cognait, j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis dit, alors je suis en vie. Je suis en vie.
Est-ce qu'on peut parler presque d'une espérance physiologique, quoi? C'est l'élan vital, vraiment de chez Vital, quoi.
Mais c'est un instinct, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort que l'instinct de vie.
Ouais.
Et quand on se dit ensuite, comment est-ce que je vais faire pour survivre à la... C'est même pas vivre, hein, c'est survivre à la mort de mon enfant.
Ouais.
Il y a des choses qui se mettent en place inconsciemment. Il y a des choses qui se mettent en route inconsciemment. Des choses qui peuvent nous paraître absurdes, manger, dormir, tout a perdu son sens, et pourtant, on vit. Et pourtant, il y a quelque chose qui agit, pas malgré nous, parce que c'est quand même nous qui agissons, mais instinctivement. Et c'est très rassurant de se dire que cette envie de vivre, elle est plus forte que nous.
On se recable pour le côté sens de la vie, c'est-à-dire que, au fond, je vis pourquoi? À chaque fois, vous voulez te poser cette question?
Non, je ne me pose pas la question du sens de la vie.
C'est dangereux? C'est dangereux ou pas?
C'est dangereux parce que c'est vouloir légitimer quelque chose. Je trouve que c'est vouloir expliquer. Même si l'émission s'appelle Enquête de sens, moi je ne cherche pas le sens. Je ne cherche pas le sens et surtout, j'ai même pas envie de donner un sens à la mort de mes enfants. C'est pas ça qui va faire que j'accepte ou pas la mort de mes enfants.
C'est plutôt pas... le contraire, peut-être même.
Non, mais j'ai pas besoin que ça ait un sens, en fait. Ça n'en a pas, et même l'absurdité de la mort, c'était Dostoïevski qui disait ça, la mort des enfants rend le monde absurde, et je suis complètement d'accord avec lui. Ouais. C'est pas que le monde perd son sens, c'est que tout d'un coup, on se dit, c'est pas ça le but, c'est pas de chercher un sens à tout ça.
D'accord.
Ça fait partie de ma vie pour une raison que j'ignore, et que je vais pas interroger non plus. C'est sur notre chemin. Comment je le vis. C'est ça qui m'intéresse.
Mais c'est vrai que c'est antinomique. C'est l'émotion. Pardonnez-moi, Dauphine, que voulez-vous? Je suis un être humain, moi aussi. Et j'ai l'impression, alors je m'adresse à la psychologue que vous êtes, Pascale Chapeau-Morelli, au fond, c'est presque aujourd'hui, alors c'est très bien de se poser des questions, tout doit avoir un sens, mon travail doit avoir un sens, mes amitiés, tout doit avoir un sens dans ma vie. Cette surenchère de quête de sens n'est-elle pas un piège, et en particulier dans ces tragédies que sont celles-ci, que la mort d'un enfant, et qui plus est le suicide d'un enfant, ou même d'un être humain, c'est vrai que là on se retrouve piégé par cette histoire de quête de sens à tout craint, voilà, dont on parle tellement aujourd'hui à l'ère du développement personnel. Vous voyez où je veux en venir.
Oui, tout à fait. Je vois tout à fait. Vous avez raison, c'est très intéressant ce que vous dites. Je reviens juste sur le sentiment de déconnexion totale de la réalité, en fin de compte, que le parent éprouve au moment où il apprend la perte de l'enfant. Et ce cœur qui bat, c'est le physiologique qui s'exprime, bien sûr, avec un shoot vraiment très très fort d'adrénaline qui fait battre le cœur pour c'est un instinct de survie, hein. Le cœur manque de s'arrêter, et donc le corps envoie un message qui le fait battre plus fort. Mais ce cœur qui bat, le cœur n'est pas un organe quelconque, c'est aussi le lien, c'est aussi le lien qui existe entre l'enfant et le parent, qui se fait entendre à ce moment-là et qui cogne à la porte. Pour dire, oh là là, je suis là plus que jamais à ce moment précis où je disparais. Chez les parents qui perdent un enfant, il y a plus que chez toute autre personne en situation de perte, la déconnexion totale du réel, l'état de sidération que Anne-Dauphine a mentionné, qui fait que le temps s'arrête. Le temps s'arrête, et c'est pour ça d'ailleurs que la personne se sent totalement déconnectée du reste du monde, et notamment de la réalité. Il n'y a plus de temporalité, c'est extra-temporel, et c'est pour cette raison qu'il y a un moment qui se fige, enfin, et dans l'action aussi, c'est difficile après de repartir dans l'action, même si on y repart forcément. Et sur le sens, c'est vraiment intéressant ce que vous dites toutes les deux, en fin de compte, du côté d'Anne-Dauphine, sur presque un refus de donner forcément, a fortiori, du sens, d'être quand même obligé de donner du sens. Vous savez, donner du sens, en fin de compte, c'est comme si on cherchait un étayage quelque part. Nous, je pense que dans le monde actuel, on n'est pas assez fort en soi, et qu'on cherche des étayages un peu partout, des soutiens. Et donner du sens, voilà, ça donnerait un soutien. Ça nous aiderait à nous tenir debout comme une plante dont la tige tend à fléchir. Or, Anne-Dauphine le dit, la question n'est pas tant, bien que ça varie d'une personne à l'autre, de donner du sens. Quel sens d'ailleurs? Là est la question, est tellement profonde, tellement abyssale qu'elle devient presque un problème. La question devient un problème, car la réponse est complexe et personnelle à chaque. Mais lorsqu'on cherche à tout prix à vouloir donner du sens et qu'on y arrive avec maintes difficultés, et pas toujours, eh bien, c'est parce qu'on n'accepte pas aussi de se laisser porter. Voyez, on cherche cet étayage, ce soutien.
Ce contrôle, au fond.
Oui, ce contrôle qui nous échappe, hein, mais se laisser porter, voilà, pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui justifie que ce soit arrivé, il faut peut-être plutôt, on prend acte en fin de compte, et puis on construit là-dessus. L'important, c'est de toujours créer, toujours construire. Ouais.
Alors, j'ai une question sur le rapport au réel qui est particulier, qui est particulier chez, en tout cas dans votre livre Anne-Dauphine Julien, mais d'abord peut-être une réaction à ce qui a été dit, vous êtes d'accord ou pas?
Oui, je suis tout à fait d'accord, et vous avez dit quelque chose qui est important, c'est la volonté de contrôle. Je crois que de chercher le sens, ou de donner du sens à quelque chose d'aussi absurde que la mort d'un enfant, c'est qu'on a le sentiment aussi qu'on n'a pas maîtrisé quelque chose. Quand on donne la vie à un enfant, on est tous un peu foutus pareil, hein. On imagine qu'on va tout maîtriser, enfin on a envie parce qu'on a un peu peur aussi de ce que cet enfant nous réserve, de ce que sa vie nous réserve. On se rend bien compte que sa vie ne nous appartient pas. Mais pourtant c'est nous qui l'avons donné, c'est la chair de notre chair, et on a envie de maîtriser ça. Et la mort d'un enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc c'est donner du sens, c'est vouloir aussi reprendre la maîtrise. C'est vouloir se dire, pas qu'on l'a choisi, hein, pas du tout, mais je peux faire quelque chose de ça. Et c'est se cogner face au mystère, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai été très, très touchée par mon mari Loïc.
On n'a pas encore parlé.
Oui, je leur en parlais tout à l'heure, mais évidemment, qui a été fracassé par la mort de son fils, mais qui, deux jours après s'être cogné la tête en disant « Mais je comprends pas pourquoi il est mort, je comprends pas.
Ouais. »
Tout à coup, il a dit « Ça y est, j'ai compris que je comprendrais pas. Ouais. » Et quand il dit ça, c'est exactement ce que vous disiez, Pascal, il prend acte, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il consent, il accepte l'inacceptable, il consent à la réalité qu'il n'a pas choisie. Et à partir de là, il peut avancer différemment. Et il m'entraînait avec lui, parce que quand il dit « je comprends que je ne comprendrai jamais », lui qui est si cartésien, si rationnel et si sage aussi, je lui fais confiance, et moi aussi je me dis « je ne comprendrai jamais ». Et c'est un immense soulagement pour chacun d'entre nous de se dire finalement « on n'a pas à comprendre ça ».
L'oiseau et l'enfant, une petite respiration, envolons-nous tout de suite avec Marie-Myriam, si vous le permettez mesdames, et on se retrouve juste après, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant
Mm-hmm.
Voilà pour l'oiseau et l'enfant, Marie-Myriam sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous réfléchissons, nous méditons, nous échangeons, comment continuer à espérer après le suicide de son enfant ? Anne-Dauphine Julien est à ce micro aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Elle est venue avec cet ouvrage « Ajouter de la vie au jour » publié aux éditions des Arènes, ce témoignage après ce décès tragique suite au suicide de Gaspard en 2022, hein, c'est donc il y a 2 ans. Anne-Dauphine Julien, et nous sommes également en ligne avec Pascal Chapeau-Morelli, docteur en psychologie, qui vient de publier « Comment survivre et vivre ?» Le chemin du deuil, publié aux éditions Guy Trédanel, qui est nourri de témoignages de différents types de deuil. Dieu sait qu'il y en a, il n'y a pas de deuil similaire, évidemment, identique, pardon. Anne-Dauphine Julien, vous écrivez quand même, vous consacrez un petit chapitre à comprendre hein, ce qu'on a évoqué juste avant de se séparer. Mais il n'y a pas de réponse. Dites-vous, comment expliquer l'inexplicable ? Comment peut-on se donner la mort à 20 ans quand on est aussi aimé ? Comment peut-on quitter la vie quand on aime autant ? Insondable mystère. Irrémédiablement, il faut s'arrêter à cet insondable mystère et on tourne la page. C'est ça qui se passe ? Comment ça se passe ?
Alors,
c'est quand même un peu brutal.
On rêverait de tourner la page et de faire comme si ça n'avait pas été existé. Non, on ne tourne aucune page, enfin... De toute façon, pour moi, la vie n'est pas un livre. En effet, elle est plus un chemin. Un livre, je ne tourne aucune page dans la vie. Tout ce que je vis me construit et j'embarque avec moi tout ce que je vis à chaque instant. Enfin, ça fait partie de ce que je suis. On tourne la page. Ce n'est pas qu'on tourne la page, c'est qu'on arrête de se poser la question. C'est plutôt ça. Cette question, elle est tout à fait légitime. Hein. Cette question du pourquoi... cette question, puis toutes les autres questions qui viennent avec, les pires, les et si, toutes ces interrogations, toute cette envie de remonter le fil, de comprendre, de changer ce qu'on aurait voulu qui n'existe jamais, mais ça marche pas comme ça. J'aurais adoré, hein, moi, si je pouvais avoir une petite baguette magique et changer, je sais pas quoi, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il faudrait changer, le sauver à cet instant-là, mais il faudrait peut-être le changer plus que juste le sauver à cet instant-là, je ne sais pas ce qu'il faut changer. Mais j'en aurais évidemment rêvé, mais c'est pas dans le domaine du possible. Ouais. C'est pas dans le domaine du possible. Donc soit je vis dans les rêves, soit je vis tout court.
Ouais.
Et ajouter de la vie au jour, c'est un peu ça. Alors c'est d'abord survivre, hein, de façon très instinctive, comme on le disait tout à l'heure, Pascal et moi, chacune à notre façon. Juste survivre. Et puis ensuite, ajouter de la vie au jour, c'est pas faire la fête, c'est pas densifier la vie, c'est juste vivre. C'est vivre en vivant les choses comme elles se présentent. C'est ça tout le... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune page qui se tourne.
Ouais.
Moi, depuis certainement la mort des filles, tout d'abord, de Thaïs et d'Azilis, mais ouais. Encore plus depuis la mort de Gaspard, je n'ai jamais autant vécu ma vie. Aussi pleinement vécu ma vie.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça peut se traduire comment ?
C'est-à-dire que je m'ajuste à tout ce que je ressens. Si je suis triste, je vais vivre intensément ma peine. Sincèrement ma peine, simplement ma peine. Et si je ne le suis pas, je ne vais pas me forcer à l'être.
D'accord.
Si je suis heureuse, en paix, joyeuse, énervée, en fait, je vis les choses comme elles viennent. J'ai l'impression de m'être ajustée à ma vie. Et puis, d'ajuster aussi un peu la vie à ce que je suis, hein, bien sûr. Mais j'ai consenti aussi... J'ai fait mien des choses qui étaient instinctives. Depuis que je suis toute petite, je suis extrêmement coquette. J'ai toujours été coquette, voilà, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mais c'était juste un trait de ma personnalité. Aujourd'hui, ma coquetterie, qui reste un trait de ma personnalité, j'y consens. J'ai accepté de rester moi-même.
On pense à la scène du train.
Ouais, incroyable.
Ça m'a beaucoup marqué. Vous prenez le soin de vous faire les ongles à côté, c'est ça ?
Ouais, dans le train. Ça m'est arrivé encore récemment. Je le fais. En fait, j'ai quasiment toujours les ongles faits aujourd'hui encore. C'est en effet un geste de coquetterie, mais c'est aussi un acte de résistance au malheur. C'est-à-dire que soit on teint tout de noir, soit le brouillard s'étend sur tous les aspects de notre vie, soit on accepte d'y redonner un peu de couleur quand on s'en sent capable. Hein. Attention, il n'y a aucune injonction, aucune obligation, on fait bien comme on veut. Et donc un jour, je suis dans le train et je n'ai pas les ongles faits et je veux absolument me les faire. Donc je demande à ma voisine qui est un peu plus loin, ça vous dérange si je me fais les ongles, parce que ça sent pas très bon. Moi, j'aime beaucoup, mais ça dérange, ça peut déranger. Donc elle me dit non, pas du tout. Puis en fait, elle est complètement intriguée, elle me dit mais vous faites les ongles dans le train? Alors je dis bah oui. Elle me dit mais vous avez le temps de vous faire les ongles? Je dis bah non, justement, je le prends... Et je lui dis, mais c'est pas anodin pour moi de me faire les ongles. Et sans lui raconter ma vie, je lui dis, voilà, pour moi, j'ai été éprouvée, c'est un acte de résistance au malheur. Et puis là, elle, son regard plonge au-delà de moi et elle dit, moi aussi, j'ai besoin de me faire les ongles. Et en fait, elle me dit, moi aussi, je souffre et j'ai besoin de, pas de résister, de rester moi face à cette souffrance. Et donc, je lui fais les ongles dans le train. C'est complètement improbable. Et c'est une façon de la rencontrer, c'est une façon de partager sa peine et qu'elle partage la mienne aussi, et plus que la peine, c'est cet acte de résistance à notre peine commune.
Et c'est peut-être pour ça, alors moi qui ai vécu, les petits... On a l'impression qu'à côté de vous, Dauphine, on doit vous le dire mille fois par jour, pardon, mais nos souffrances à nous, on a envie de les mettre au placard quand on vous lit, vous voyez.
Ah bah surtout pas, mais c'est justement ce que je veux pas. Pardon,
je savais que vous alliez me dire ça.
C'est surtout pas, je ne suis pas là pour tempérer les petites peines et les petits tracas, si vous savez, comme je m'agace de petites choses.
Ah bon, bah ça me rassure un peu quand même. Vous restez bien humaine, ça fait plaisir à entendre. Mais surtout dans votre livre, en fait, il fait du bien, votre livre. Vous savez quoi? Il fait du bien. Parce que je trouve que même, vous voyez, on se rend compte, on se dit, mais oui, c'est vrai, la scène du boucher, quand vous rencontrez les petits commerçants, vous vivez tellement pleinement les instants, c'est ce que vous racontez dans cet ouvrage particulièrement, que ça donne envie de vivre, en fait, tout simplement. Vous voyez, ce livre donne envie de vivre. Hein. Vous voyez, je sais pas, Pascal, j'ai entendu un petit oui à un moment donné. Dans... Exprimer ce oui plus clairement, vous qui êtes un peu loin.
Oui, eh bien écoutez, bon, là, juste sur ce qui vient d'être dit, prendre soin du corps, c'est très important effectivement pour une personne qui vient de subir une perte, parce que ça veut dire se maintenir dans la réalité, et puis prendre soin de soi, ça veut dire qu'on accepte de vivre et qu'on le montre également. Le se faire les ongles, c'est pas anodin, et en plus dans le train, c'est montrer aux autres qu'on est capable de vivre et qu'on vit malgré tout, c'est s'autoriser à vivre, hein, donc c'est vraiment fondamental. Sur les pages aussi qui se tournent, je fais un petit peu le tour de ce qui a été dit, sur les pages qui ne se tournent pas justement, effectivement les pages ne se tournent pas, elles se succèdent. Elles se succèdent, les pages. C'est-à-dire que la page suivante tient compte de la page précédente et qu'elle se construit dessus. Donc, comme disait Anne Dauphine, c'est une évolution et c'est une co-construction progressive dans la vie. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on a au moment T, mais avec ce qu'on a eu également. On continue de faire et de construire comme ça. Toutefois, ici, on a, en fin de compte, on a essayé avec vraiment, on essaye avec votre bonne émission, votre belle émission, de se poser une question fondamentale. C'est comment on va survivre. Dauphine a dit un mot clé tout à l'heure sur l'action. C'est-à-dire être quand même dans l'action. Alors, on ne peut pas être tout de suite dans l'action à un moment d'un deuil si fort et si traumatisant. On est forcément dans la sidération d'abord. Mais être dans l'action, quelle action ? Il existe un très beau paradoxe qui est que, en fait, c'est en donnant que l'on acquiert. C'est en donnant que l'on remplit un vide. Et la plupart du temps, dans, je sais pas, 90%, plus de 90% des cas, ce qui va nous permettre de survivre et après de vivre même, c'est le fait de sublimer cette douleur effroyable interne, c'est-à-dire de la transformer en une action, en quelque chose qui, lui, va avoir du sens, que le trauma n'avait pas. C'est-à-dire, très souvent, les personnes qui subissent une perte majeure créent une association, font du bénévolat, se lancent dans des actions parfois extrêmement complexes et difficiles, donnent énormément de leur personne, de leur temps et de leur créativité pour faire quelque chose, entre guillemets, de leur souffrance. C'est ça, faire quelque chose de la souffrance. Et je le souligne à nouveau, c'est en donnant qu'on acquiert. Rien que le fait de donner, c'est-à-dire aux autres, en fin de compte, ça nous remplit. Ça peut sembler paradoxal, dit comme ça, mais en fin de compte, c'est exactement le processus de ce qui se passe, même dans la vie parfois de tous les jours, on dit aussi le plaisir de donner, ou il est plus important de donner que de recevoir, ou des choses comme ça. En fin de compte, mais lorsqu'on donne de soi-même aux autres, ou tout simplement au quotidien, et que Anne-Dauphine parlait de partager, c'est une action créatrice qui nous remplit, et donc qui ne va pas combler le vide de l'absence, mais qui va combler quelque chose quand même en nous. Et c'est ça qui est fondamental, en fin de compte, dans la porte de sortie, enfin, dans l'issue, dans la progression et l'évolution de ce qu'on peut vivre dans un tel deuil, quoi.
Alors moi, j'ai une question, à moins que Anne-Dauphine brûle d'impatience de réagir à ce petit développement de la part de Pascal Chapeau-Morelli. Anne-Dauphine, c'est est-ce que, pardon de vous poser une question que tout le monde se pose et a envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que le destin était contre vous, que Dieu vous a... Est-ce que ça vous est arrivé, ça, quand même? Est-ce que ça vous arrive encore, ou est-ce que ça vous est jamais... Ça vous a jamais traversé?
Moi, je ne cherche pas de coupable dans cette histoire. C'est pas que ça m'a pas traversé, c'est pas ça, c'est que je fuis ça. Enfin, je peux pas penser comme ça. C'est désespérant de penser comme ça.
Pourquoi d'abord, on est tous comme ça?
Bah parce que c'est la répétition qui se dit. Parce qu'on estime que dans la vie, on est doté ou pas doté. On voit les choses à cette mesure-là, avec la justice et l'injustice, qui complique beaucoup quand même notre relation à d'abord les uns aux autres et puis à l'au-delà encore plus. Si j'y pense, moi, si je refais le film... Un jour, j'ai une amie que j'aime beaucoup par ailleurs, qui avec toute son envie de me consoler et puis toute sa maladresse, parce qu'on est toujours maladroit, enfin on est souvent maladroit quand on s'approche de quelqu'un qui souffre beaucoup comme ça, elle me dit « Oh mais ma pauvre, ta vie c'est un cauchemar ». Elle me dit ça et avec envie de me dire « Mais vraiment, qu'est-ce que c'est difficile ?» Mais c'est insoutenable pour moi d'entendre que ma vie est un cauchemar. Alors du coup, je me suis un peu redressée en entendant dire ça, puis je me dis, mais non, en fait, moi, je souffre. J'ai souffert la mort de trois de nos enfants, c'est sûr, mais j'ai rencontré Loïc, qui est l'homme de ma vie depuis 25 ans. Alors, qui est bien en vie. C'est du boulot. On a eu quatre enfants ensemble. Ouais. On a été heureux d'avoir ces quatre enfants. Ces quatre enfants sont ma plus grande joie. Et voilà, et j'ai beaucoup de belles choses aussi dans la vie. Soit je me définis à travers ce que j'ai vécu, et dans ce cas-là, c'est un cauchemar, en effet. Soit je vois aussi les choses un peu dans leur globalité. Moi, je ne crois pas ni être damnée ni quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai que quand on a appris la mort, enfin, quand le médecin nous a appelés au tout petit matin pour nous dire « Venez », Gaspard était hospitalisé depuis deux jours. Voilà, il n'était pas bien, donc il était hospitalisé depuis deux jours. Le médecin a dit « Venez, son état s'est aggravé ». On se doutait que ce n'était pas son état. Qu'il était mort. Mais dans la rue, je me disais « Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être mort parce qu'on a déjà perdu deux enfants ». Comme si, dans la vie aussi, on se met des garde-fous parce qu'on a... pour se rassurer, en fait. Non, évidemment qu'il n'est pas mort. On a perdu deux enfants. On ne perd pas trois enfants. Et évidemment qu'il ne s'est pas suicidé, qui est une mort éminemment violente, hein, puisqu'on a déjà perdu deux enfants. Ça ne peut pas s'être passé comme ça. Et quand j'apprends que Gaspard est mort, l'une des premières choses qui me vient à l'esprit quand je suis capable de penser, c'est « alors tout est possible ». Alors tout d'un coup, il n'y a plus de limites. Tout d'un coup, je perds confiance dans la vie. Je me dis « mais qui me dit dans ce cas-là qu'Arthur ne va pas mourir ?» Et d'ailleurs, je me dis plutôt « c'est sûr qu'Arthur va mourir ». Et puis, Loïc va mourir et ça va être le début de la fin. Et en fait, heureusement que ça n'est pas comme ça. Ces garde-fous, c'est pas « tout est possible ». Oui, tout est possible. Rien ne me garantit dans la vie que tout ça n'est pas possible. Mais rien ne me dit aussi que tout ça va t'arriver. Donc ensuite, c'est vraiment une confiance à restaurer. Une confiance dans la vie, mais c'est un peu compliqué. C'est surtout une confiance en soi.
Ouais.
C'est très ébranlé, la confiance en soi. Je vais pas y arriver. Je peux pas vivre ça. Moi, je me dis pas comment je vais faire, mais parfois je me retourne et je me dis, mais comment j'ai fait ? Tout à l'heure, quand j'entendais Pascal reparler de la sidération, je me suis replongée, alors je m'en approche pas beaucoup, mais de ce moment, on a appris la mort de Gaspard, et je me suis dit, quand vous disiez le cœur qui a envie de s'arrêter, puis qui cet afflux d'adrénaline, et parfois je me dis, mais comment j'ai fait pour y survivre ? Comment j'ai fait ? Et au lieu de me gargariser de force personnelle, je me dis, mais en fait, l'être humain est capable de vivre beaucoup plus de choses qu'il n'y pense. Si on se fait confiance à ce que l'on a en nous, ce que l'on a construit, mais aussi ce que l'on avait déjà, ce qui fait partie de la nature humaine, on avancerait dans la vie avec plus de sérénité, je crois.
je sais plus, alors c'est une phrase qui peut agacer, attention, hein, vous savez, les bons cathos qui nous entourent et qui nous disent, de toute façon, le Seigneur ne te fait porter que ce que tu peux, permet que tu portes ce que tu peux porter. Je sais pas ce que vous faites de cette phrase avant que nous nous séparons musicalement une deuxième fois. Une deuxième...
Ah bah dans ce cas-là, je préfère être minable, n'avoir aucune force et ne pas savoir apporter ça. Non, je,
mais
moi,
franchement,
j'ai...
cette phrase, on alors en parle,
moi,
quoi.
C'est pas cette phrase que j'aime, c'est le Seigneur n'appelle pas les capables, il rend capable ce qu'il appelle. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, bon bah toi tu m'as l'air costaud, donc tu vas voir, je vais t'envoyer des trucs bien balèzes dans la vie, parce que dans ce cas-là, on préfère tous mes grichons, tout freluquet et tout, ok. Et on préfère surtout pas être en première ligne, hein, comme le Seigneur met en avant ceux qu'il aime le plus, enfin éprouve ceux qu'il aime le plus, on se dit, bah s'il pouvait m'aimer
un petit peu moins.
Non, c'est pas ça.
Non.
C'est parce que tu souffres, il va prendre spécialement soin de toi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose qui vient m'envelopper, qui vient me recouvrir. Mais pas que dans ma souffrance, dans tous les aspects de ma vie. Ouais. Qui m'accompagne. Et sur ce chemin, j'aime beaucoup, moi, le chemin du deuil, c'est une expression qui me parle beaucoup plus, parce que c'est un chemin, c'est le chemin de la vie, ouais. Mais dans lequel le deuil fait sa place. J'ai pas un bâton sur lequel m'appuyer, je me casse la figure, je me prends les pieds bien souvent, je reste au sol à pleurer toute la journée, mais je suis enveloppée d'une douceur. Donc il ne m'a pas... bombardé d'épreuves parce qu'il me disait, bon, là, elle est costaud comme tout, elle va y résister. Mais en accueillant ces épreuves dans ma vie, je reçois aussi, j'accepte ce qui m'est donné pour les vivre.
Sade Lisa, Anne-Dauphine Julien et Pascal Chapeau-Morelli par Cat Stevens. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall, she can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, sad Lisa, Lisa. In a corner by the door, there must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa,
sad Lisa, Lisa.
Voici, nous revoilà dans cette émission Quête de sens. Comment continuer à espérer? Peut-on seulement espérer hein, après le suicide de son enfant? On peut vraiment s'interroger. Il ne suffira pas de 52 minutes pour y répondre, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais Anne Dauphine Julien est à ce micro pour témoigner. Justement, elle le raconte dans cet ouvrage extrêmement pudique, il faut le dire, ajouté de la vie au jour, mais extrêmement concret. Bien terre à terre, Anne Dauphine Julien, aux éditions des Arènes. Merci d'être là. Pascal Chapeau-Morel est également en ligne avec nous. Elle qui est docteur en psychologie, enseignante à Paris 8 et qui a publié tout fraîchement Le chemin du deuil, comment survivre et vivre chez Très Daniel. Effectivement, vous avez raison, hors antenne, où nous évoquions cette question de la fatalité et de la culpabilité. Je pense qu'on ne peut pas ne pas s'y arrêter avec vous, Anne Dauphine Julien, et avec vous également, Pascal Chapeau-Morelli, qui dit suicide, a fortiori suicide d'un proche et de son enfant, dit forcément sentiment de culpabilité. Anne Dauphine, c'est une question douloureuse pour vous ou pas?
Alors, c'est une question qui vient tout le temps, toujours, hein, toujours face à la mort de son enfant, au suicide encore plus. Enfin, je dis de son enfant, mais en effet, vous avez raison d'étendre ça à un proche, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose et qu'on aurait dû surtout faire quelque chose. Alors, moi, j'ai eu une très grande chance. C'est qu'à l'instant de... quand j'ai appris la mort de Gaspard, j'ai pas eu ce sentiment de culpabilité. Nous avons eu la chance, ni Loïc d'ailleurs, nous avons eu la chance aussi que Gaspard, qui a fait une dépression nerveuse foudroyante, nous explique un peu ce qui se passait. Et surtout, nous disent, mais vous pouvez... Enfin, c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. Donc, il a lui-même allégé un peu ce sentiment de culpabilité. Donc, sur le moment, on l'a pas eu. Mais la culpabilité, elle vient dans les « et si ». Vous voyez, quand tout à coup, on se dit, oh, « mais si seulement... » Mais et si
j'avais fait ça.
Non, pas il, mais moi. Si la veille, je lui avais dit ça.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi j'ai pas dit ça? Et si je l'avais aimé plus? Et on peut remonter toute la vie comme ça et essayer de combler des trous et de dévier le chemin. Mais cette culpabilité, c'est l'ennemi à fuir. C'est vraiment... je crois qu'à partir du moment où on comprend qu'on n'y peut rien... Alors, je parle pas de tous les cas, bien sûr. Je parle de cas de dépression comme ça. Oui, on aurait pu l'aimer plus. Oui, on aurait pu l'aimer mieux. Oui, on aurait dû l'aimer plus. Oui, on aurait dû l'aimer mieux. Mais c'est pas pour ça qu'il est mort. Mmh. Voilà. C'est la culpabilité, je pense que c'est l'ennemi dans l'épreuve. Dans ce genre d'épreuve, elle n'apporte rien de bon. Et puis, si c'est pas nous qui sommes coupables, c'est forcément quelqu'un d'autre. Nous, on l'a beaucoup vécu, cette culpabilité, avec tous les copains de Gaspard. Gaspard, il est mort la veille de ses 20 ans. Il s'est suicidé la veille de ses 20 ans. Et il avait plein de copains et une amoureuse. Et voilà, il était très entouré. Et personne n'avait rien vu, personne ne savait rien, personne ne savait pas qu'il allait mal, qu'il était rentré à la maison. Qu'il
gardait tout pour lui.
Ben en fait, c'était... Oui, il gardait tout pour lui parce qu'il n'y croyait pas lui-même, parce qu'il disait, si je l'extériorise, ça va devenir vrai. Enfin, je vais lui faire prendre corps à cette espèce de pulsion. Et il essayait de les contenir, en fait, en les gardant pour lui. Et puis, jusqu'au moment où ça a été trop fort, il nous en a parlé et... Voilà, et on l'a accompagné comme on a pu. Mais tous ses amis, il y en a un qui disait « Mais j'aurais dû le rappeler, il avait essayé de m'appeler, il y a 2 mois, j'aurais dû le rappeler. » En disant « Mais si je l'avais rappelé, peut-être qu'il ne serait pas mort. » Et c'est vraiment leur dire « Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. » Voilà, c'est la seule chose qu'on pouvait leur dire, c'est vraiment « Mais n'imaginez pas un quart de seconde que vous puissiez quelque chose. » Et puis c'est aussi, pas se libérer d'une toute puissance, mais se dire « C'est sa vie, en fait. » C'est pas ce qu'on aurait souhaité. Et alors, attention, je dis pas que le suicide est un choix. Je dis pas que jamais je ne dirais que Gaspard a voulu mourir. Je crois que Gaspard voulait ne plus souffrir.
Ouais.
Et que le suicide, c'est pas une envie de mourir. C'est une envie toute puissante de ne plus souffrir. C'est complètement différent. Ouais. Donc je n'ai pas de culpabilité et je ne le culpabilise surtout pas lui. Je me dis, qu'est-ce qu'il a dû souffrir pour en arriver là?
Ouais. Pascal Chapeau-Morelli. Effectivement, vous êtes d'accord avec cette définition d'abord du suicide qu'on a fait Anne Dauphine Julien?
Oui, bien sûr, et tout à fait. Et aussi, hein, il faut savoir quand même que quel que soit le type de deuil, il y a toujours un sentiment de culpabilité qui surgit à un moment ou à un autre. Et encore plus, évidemment, lorsque le proche, l'enfant ou notre proche s'est suicidé, Mais même lorsque ça ne s'est pas passé comme ça, il y a toujours, toujours un sentiment de culpabilité qui arrive à un moment donné. Et si, comme disait voilà, notre ami. Mais tout ça, c'est lié avec un phénomène qui se passe dans le deuil. C'est qu'en fait, à partir du moment où l'autre n'est plus là, on réécrit le lien mentalement. Et on réécrit l'histoire. On en a besoin. C'est pas négatif. Sauf que si il y a un sentiment de culpabilité tellement massif qu'il en devient envahissant, il est tout à fait inutile, comme dit Anne Dauphine. Eh bien, à ce moment-là, on n'arrive plus à réécrire ce lien et à lui donner une continuité qui puisse mener à un certain apaisement. Effectivement, la culpabilité est improductive. C'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, parce qu'on n'y trouve rien. C'est un terrain tout à fait aride. Mmh. Par contre, on se découvre dans le deuil, et même dans le deuil d'un enfant, des ressources qu'on ne soupçonnait pas. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure
Anne Dauphine.
Et les personnes qui subissent un tel deuil se découvrent deux choses. Elles se découvrent des ressources bien plus grandes que ce qu'elles pensaient pouvoir mettre en œuvre, et aussi une lucidité. Là, je me réfère à ce qui était dit tout à l'heure sur le « tout est possible ». Tout est possible en bien et en mal, d'ailleurs. C'est-à-dire les épreuves et les bonheurs que la vie nous envoie. Et tout ça donne une très forte lucidité sur la vie qui peut paraître un peu crue vue de l'extérieur pour ceux qui n'ont jamais subi de tels traumatismes. Mais je pense que les personnes qui vivent un tel deuil ensuite vivent les yeux ouverts, je dirais.
Oui.
C'est-à-dire, avec un regard sur le réel terrestre, évidemment, tout à fait proche, de plus proche de la réalité, en fin de compte, plus proche de ce qui est vraiment, voyez, de ce qui peut être vraiment. Et ça, ça donne une force incroyable, parce qu'avec ça, on peut en faire un outil pour avancer et pour faire d'autres choses au pluriel, qui vont nourrir notre vie et celle des autres, d'ailleurs. C'est une force. On se découvre des forces intérieures et on en acquiert également dans le deuil, dans ce deuil-là notamment, qui pourtant est comme de se cogner contre la réalité, pour utiliser le terme qui a été employé tout à l'heure.
Ouais. Dauphine, vous vous retrouvez là dans cette description, la lucidité. Vous le ressentez ou pas d'ailleurs?
Ah oui, complètement, je le ressens, mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Et quand je vous entends entendu le dire, Pascal, je me suis dit, ben, c'est exactement ça, c'est vraiment une lucidité sur la vie qui nous permet, c'est pour ça quand je dis faire confiance à la vie, cette lucidité de la vie, on comprend que c'est pas que la vie, elle, on ne lui demande pas, il n'y a pas à lui faire confiance ou pas lui faire confiance, c'est pas ça le rapport à la vie, c'est pas la vie qui donne ou qui ne donne pas, c'est pas tout à fait ça, c'est la vie est, et il y a ce que nous vivons dans la vie, en fait. C'est une façon aussi de s'approprier la vie. Et non pas, c'est pour ça que ce titre « Ajouter de la vie au jour » pour moi est important, et survivre et vivre aussi, parce que entre survivre et vivre, il y a une décision qui est prise, enfin une décision très inconsciente parfois, c'est on peut faire survivre à exister, tout simplement, juste se contenter d'exister, ou là je vais utiliser ce mot que j'aime pas, mais on traverse la vie finalement, on n'imprime plus rien, on vit plus rien, on est juste là, où il y a passer de survivre à vivre.
Ouais.
Et la vie, c'est un consentement, en fait. La vie, c'est... Alors, je crois que l'enfant qui naît consent à la vie. La force qui le fait crier, débloquer ses poumons, etc. Oui, encore une fois, les médecins l'expliquent, mais il y a une intention de l'enfant de vivre. Tous les enfants qui disent « mais j'ai pas choisi de vivre », bah si, à un moment, quand même.
En fait, si.
Très instinctivement, mais cet instinct, il est quand même à l'œuvre, il est à l'œuvre en nous. Donc, c'est consentir à cet instinct. Et c'est tout à coup, en effet, une vision plus réaliste de la vie, mais c'est pas du tout, moi j'ai pas une vision du tout négative de la vie, ni défaitiste, hein. J'aime profondément la vie, je suis très heureuse de vivre.
On doit vous le calquer souvent, non ? De prime abord, on doit vous le calquer souvent, cette idée, oh, la pauvre, elle doit avoir hâte d'en finir, enfin, je sais,
oui,
pas, elle doit
bah...
avoir... Elle en peut plus, quoi. Enfin,
je pense que les gens ne me le disent pas, mais...
Ils doivent le penser très
non,
fort.
Non, mais ils doivent dire... moi aussi, à un moment, je me suis dit... Je me suis dit, mais c'est long tout ce qui me reste à vivre. Je viens d'avoir 51 ans, donc j'ai fait la moitié, quoi, un peu plus de la moitié, mais statistiquement la moitié. Et je me dis, il reste tout ça à vivre. Et parfois, c'est écrasant. Et parfois, je me dis, mais il reste tout ça à vivre avec l'enthousiasme. Mais surtout, c'est pas il reste tout ça à gravir ou à vivre. C'est là, ce que j'ai à vivre, c'est aujourd'hui.
Ouais.
Et dans ce réalisme, c'est qu'est-ce qui me concerne dans l'instant? Qu'est-ce que je vis dans l'instant? Et mon réalisme, il est là. Mon principe de réalité, c'est ce qui me concerne, c'est ce que je vis tout de suite. Oui, il va peut-être se passer ci, oui, il va peut-être se passer ça, mais aujourd'hui, c'est ça.
C'est Épictète avec un grand E majuscule, hein, ce que vous êtes en train de nous dire, ce que personne n'arrive à faire. Ben, la preuve, voilà, avec Anne-Dauphine Julien, en tout cas, qui essaie, qui s'efforce de le vivre au quotidien. Alors, c'est vrai que vous parlez, vous, dans votre livre, on n'a pas parlé, si vous avez parlé de Loïc, évidemment. Mais Pascal, vous dites que les parents qui ont vécu la mort tragique de leur enfant, je crois que c'est ça que vous évoquez à un moment donné dans votre livre, réagissent différemment les uns des autres. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de séparation. Et j'ai repensé à la culpabilité. Est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport avec cette culpabilité parfois qui prend tellement le pas sur le reste, sur le côté libérateur, enfin le chemin qui reste à vivre au fond? Que du coup, on se renferme chacun dans sa bulle et puis on finit par se séparer. Alors d'abord Anne-Dauphine, puis ensuite Pascal, je reviendrai vers vous si vous le permettez.
Bon, alors je pense que d'abord, la première chose à dire, c'est que la souffrance, ça rend pas fort. La souffrance, ça fait que fragiliser. Hein.
D'accord.
Et nous, on nous dit régulièrement encore, mais avec ce que vous avez traversé, votre couple est indestructible, notre couple est d'une fragilité immense, bien sûr. Ah bah, la souffrance, ça creuse, c'est pas anodin le fait que le vocabulaire de la souffrance emprunte à celui de la douleur physique et de la peine. On voit tout ce qui est comme une plaie béante, et une plaie, ça fragilise. Bien sûr que notre couple est fragile. Sa force, c'est de savoir qu'il est fragile. On prend immensément soin de notre couple, tout le temps. Enfin, c'est pas que la culpabilité, l'écueil, c'est tout. C'est le fait que... À l'instant de la souffrance, c'est facile de se serrer dans les bras, de se dire qu'on s'aime. Enfin, facile, c'est instinctif, encore une fois. Le plus difficile, c'est dans les petits moments tranquilles, dans les moments où... Par exemple, moi, je ne souffre pas du tout. Et Loïc, pour une raison qui ne m'appartient pas, sa souffrance est activée d'un coup, par un détail, quelque chose qui pour moi est anodin, qui pour lui est un révélateur. Et que là, moi, je ne comprends pas pourquoi il souffre à ce moment-là. Et c'est le rejoindre dans ces moments-là. C'est aussi se dire, je ne comprends pas ce qu'il vit. On puise à la même source, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je ne comprends pas pourquoi à cet instant-là, il souffre. C'est prendre soin de l'autre. Alors c'est tout le principe du couple, c'est de prendre soin de l'autre. Mais dans ces moments-là, plus que jamais.
Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci Anne-Dauphine Julien et merci Pascal Chapeau-Morelli. Anne-Dauphine, merci à vous. Pascal, ajoutez de la vie au jour pour vous, Anne-Dauphine Julien, votre livre aux éditions des Arènes. Et Pascal Chapeau-Morelli, merci à vous. Comment survivre et vivre le chemin du deuil chez Très Daniel. Merci mesdames et bonne soirée à tous.